Chapitre 8e, l'œuvre d'Essares Bey. Cette fois, le capitaine Belval sembla se radoucir un peu. Il entrevoyait vaguement les considérations qui obligeaient la justice à conduire la bataille avec prudence. « Vous êtes sûr ? » dit-il. « Oui, mon capitaine. Voilà 2 ans que j'ai été chargé d'étudier cette affaire et que mon enquête m'a prouvé qu'il y avait en France des exportations d'or vraiment inexplicables. Mais je l'avoue, c'est depuis ma conversation avec Madame Essares que je vois seulement d'où provenaient ces fuites et qui avaient mis debout, à travers toute la France et jusque dans les moindres bourgades, la formidable organisation par laquelle s'écoulait peu à peu l'indispensable métal. Madame Essares savait donc ? Non, mais elle soupçonnait beaucoup de choses, et cette nuit, avant votre arrivée, elle en entendit d'autres qui furent dites entre Essares et ses agresseurs, et qu'elle m'a répété, me donnant ainsi le mot de l'énigme. Cette énigme, j'aurais voulu en poursuivre sans vous la solution complète. C'était du reste l'ordre de Monsieur le ministre de l'Intérieur, et Madame Essares manifestait ce même désir. Mais votre fougue emporte mes hésitations, et puisqu'il n'y a pas moyen de vous évincer, mon capitaine, j'y vais carrément. D'autant qu'un collaborateur de votre trempe n'est pas à dédaigner. Ainsi donc, dit Patrice qui brûlait d'en savoir davantage. Ainsi donc, la tête du complot était ici. Essares Bey, directeur de la Banque franco-orientale, 6 rue Lafayette, Essares Bey, égyptien en apparence, turc en réalité, jouissait à Paris dans le monde financier d'une grosse influence. Naturalisé anglais, mais ayant gardé des relations secrètes avec les anciens possesseurs de l'Égypte, Essares Bey était chargé, pour le compte d'une puissance étrangère, que je ne pourrais encore désigner exactement, de saigner, il n'y a pas d'autre mot, de saigner la France de tout l'or qu'il lui serait possible de faire affluer dans ses coffres. D'après certains documents, il a réussi de la sorte en 2 ans à expédier 700 millions. Un dernier envoi se préparait lorsque la guerre a été déclarée. Vous comprenez bien que des sommes aussi importantes ne pouvaient plus, dès lors, s'escamoter aussi facilement qu'en temps de paix. Aux frontières, les wagons sont visités. Dans les ports, les navires en partant sont fouillés. Bref, l'expédition n'eut pas lieu. Les 250 à 300 millions d'or demeurèrent en France. 10 mois se passèrent. Et il arrive à ceci, qui était inévitable, c'est qu'Essares Bey, ayant ce trésor fabuleux à sa disposition, s'y attacha, le considéra peu à peu comme à lui, et à la fin, résolut de se l'approprier. Seulement, il y avait les complices. Ceux que j'ai vus cette nuit? Oui, 12 de levantins équivoques, faux naturalisés, bulgares plus ou moins déguisés, agents personnels des petites cours allemandes de là-bas. Tout cela, auparavant, tenait en province des succursales de la banque Essares. Tout cela soudoyait, pour le compte d'Essares, des centaines de sous-agents qui écumaient les villages, faisaient les foires, buvaient avec les paysans, offraient des billets et des titres contre de l'or français, et vidaient les bas de laine. À la guerre, tout cela ferma boutique et vint se grouper autour d'Essares Bey, qui lui aussi avait fermé ses bureaux de la rue Lafayette. Et alors, il se passa des incidents que nous ignorons. Sans doute, les complices apprirent-ils par leur gouvernement que le dernier envoi d'or n'avait pas été effectué. Et sans doute, devinèrent-ils aussi qu'Essares Bey tentait de garder par-devers lui les 300 millions récoltés par la bande. Toujours est-il que la lutte commença entre les anciens associés, lutte acharnée, implacable, les uns voulant leur part du gâteau, l'autre résolu à ne rien lâcher et prétendant que les millions étaient partis. Dans la journée d'hier, cette lutte atteignit son maximum d'intensité. L'après-midi, les complices tentaient de s'emparer de Madame Essares afin d'avoir un otage dont ils comptaient se servir contre le mari. Le soir, vous avez vu l'épisode suprême. Mais pourquoi précisément hier soir? Pour cette raison que les complices avaient tout lieu de croire que les millions allaient disparaître hier soir. Sans connaître les procédés employés par Essares Bey lors de ses derniers envois, ils pensaient que chacun de ces envois, ou plutôt que l'enlèvement des sacs était précédé d'un signal. Oui, une pluie d'étincelles, n'est-ce pas? Justement. Il y a dans un coin du jardin d'anciennes serres que surmonte la cheminée qui les chauffait. Cette cheminée, encrassée, pleine de suie et de détritus, dégage, quand on l'allume, des flamèches et des étincelles qui se voient de loin et qui servaient d'avertissement. Et Sarès Bey l'a allumé hier soir lui-même. Aussitôt, les complices, effrayés et résolus à tout, sont venus. Et le plan de Sarès Bey a échoué. Oui, celui des complices aussi, d'ailleurs. Le colonel est mort. Les autres n'ont pu récolter que quelques liasses qui ont dû leur être prises. Mais la lutte n'était pas finie. Et les soubresauts les plus tragiques en ont accompagné ce matin le dénouement. Selon vos affirmations, un homme qui vous connaissait et qui cherchait à se mettre en rapport avec vous a été tué à 7h19, et vraisemblablement par Sarès Bey, qui redoutait son intervention. Et quelques heures plus tard, à 12h23, Sarès Bey lui-même était assassiné, probablement par l'un de ses complices. Voici toute l'affaire, mon capitaine. Maintenant que vous en savez autant que moi, ne pensez-vous pas que l'instruction de cette affaire doit demeurer secrète et se poursuivre un peu en dehors des règles ordinaires ? Après un instant de réflexion, Patrice répondit « Oui, je le crois. »« Eh oui !» s'écria M. Desmalions. « Outre qu'il est inutile de proclamer cette histoire d'or disparue et d'or introuvable qui alarmerait les imaginations, vous pensez bien qu'une opération qui a consisté à drainer pendant 2 ans une pareille masse d'or n'a pas pu s'effectuer sans des compromissions fort regrettables. Mon enquête personnelle va me révéler, j'en suis sûr, du côté de certaines banques plus ou moins importantes et de certains établissements de crédit, une suite de défaillances et de marchandages sur lesquels je ne veux pas insister, mais dont la publication serait désastreuse. Donc, silence. Mais le silence est-il possible? Pourquoi pas? Dame, il y a quelques cadavres, celui du colonel Faki, par exemple. Suicide. Celui de Mustapha que vous retrouverez ou que vous avez dû retrouver dans le jardin Galliera. Fait divers. Celui de M. Sarès. Accident. De sorte que toutes ces manifestations de la même force criminelle resteront isolées les unes des autres. Rien ne montre le lien qui les rattache les unes aux autres. Le public pensera peut-être le contraire. Le public pensera ce que nous jugerons bon qu'il pense. Nous sommes en temps de guerre. La presse parlera. La presse ne parlera pas, nous avons la censure. Mais si un fait nouveau quelconque, un crime nouveau... Un crime nouveau, pourquoi? L'affaire est finie. Du moins en sa partie active et dramatique. Les principaux acteurs sont morts. Le rideau baisse sur l'assassinat des Sarès Bey. Quant aux comparses, Bourneuf et autres, avant 8 jours, ils seront parqués dans un camp de concentration. Nous nous trouvons en face d'un certain nombre de millions sans propriétaire que personne n'osera réclamer et sur lesquels la France a le droit de mettre la main. Je m'y emploierai activement. Patrice Belval hocha la tête. Reste aussi Madame Sarès, monsieur. Nous ne devons pas négliger les menaces si précises de son mari. Il est mort. N'importe, la menace demeure. Le vieux Séméon vous le dit d'une façon saisissante. Il est à moitié fou. Précisément. Son cerveau garde l'impression du danger le plus pressant. Non, monsieur, la lutte n'est pas terminée. Peut-être même ne fait-elle que commencer. Eh bien, mon capitaine, ne sommes-nous pas là? Protégez et défendez Madame Sarès par tous les moyens qui sont à votre pouvoir et par tous ceux que je mets à votre disposition. Notre collaboration sera constante, puisque ma tâche est ici, et que s'il y a la bataille que vous attendez et dont je doute, elle aura lieu dans l'enceinte de cette maison et de ce jardin. Qui vous fait supposer? Certaines paroles entendues hier soir par Madame Sarès. Le colonel Faki a répété plusieurs fois « L'or est ici, Sarès ». Et il ajoutait « Depuis des années, chaque semaine, ton automobile apportait ici ce qu'il y avait à ta banque de la rue Lafayette. Siméon, le chauffeur et toi, vous faisiez glisser les sacs par le dernier soupirail à gauche. De là, comment l'expédiais-tu? Je l'ignore. Mais ce qui était ici au moment de la guerre, les 700 ou 800 sacs qu'on attendait là-bas, rien n'est sorti de chez moi. Je me doutais du coup et nuit et jour nous avons veillé. L'or est ici. » Et vous n'avez aucun indice? Aucun. Ceci tout au plus et je n'y attache qu'une valeur relative. Il tira de sa poche un papier froissé qu'il déplia et reprit. Avec le médaillon il y avait dans la main des Sarès Bey, ce papier barbouillé d'encre, où l'on peut voir cependant quelques mots informes, écrits en hâte, dont les seuls à peu près lisibles sont ceux-ci, « Triangle d'or ». Que signifie ce triangle d'or? En quoi se rapporte-t-il à notre affaire? Pour l'instant, je n'en sais rien. J'imagine tout au plus que le chiffon de papier, comme le médaillon, a été arraché par SRSB à l'homme qui est mort ce matin à 7h19, et que quand lui-même a été tué à 12h23, il était en train de l'examiner. Oui, les choses ont dû se passer ainsi. Et vous voyez, monsieur, conclut Patrice, comme tous ces détails se relient les uns aux autres, croyez bien qu'il n'y a qu'une affaire. Soit, dit M. Desmalions en se levant, une seule affaire en deux parties. Poursuivez la seconde, mon capitaine. Je vous accorde que rien n'est plus étrange que cette découverte des photographies qui vous représentent, Madame SRS et vous, sur un même album et sur un même médaillon. Il y a là un problème qui se pose, dont la solution nous amènera sans doute bien près de la vérité. À bientôt, mon capitaine, et encore une fois, usez de moi et de mes hommes. » Sur ces mots, l'ancien magistrat serra la main de Patrice. Patrice le retint. « J'userai de vous, monsieur. Mais n'est-ce pas dès maintenant qu'il faut prendre les précautions nécessaires ?»« Elles sont prises, mon capitaine. La maison n'est-elle pas occupée par nous ?»« Oui, oui, je le sais, mais tout de même. J'ai comme un pressentiment que la journée ne s'achèvera pas. » Rappelez-vous les étranges paroles du vieux Siméon. M. Desmalions se mit à rire. Allons, mon capitaine, il ne faut rien exagérer. Pour l'instant, s'il nous reste des ennemis à combattre, ils doivent avoir grand besoin de se recueillir. Nous parlerons de cela demain, voulez-vous, mon capitaine? Il serra la main de Patrice, s'inclina devant Madame Essarès et sortit. Par discrétion, le capitaine Belval avait fait d'abord un mouvement pour sortir avec lui. Il s'arrêta près de la porte et revint sur ses pas. Madame SRS, qui sembla ne pas l'entendre, demeurait immobile, courbée en deux et la tête tournée. Il lui dit « Coralie ». Elle ne répondit pas, et il lui dit une seconde fois « Coralie », avec l'espoir qu'elle ne répondrait pas non plus, car le silence de la jeune femme lui semblait tout à coup la chose la plus désirable. Il n'y avait plus de contrainte ni de révolte. Coralie acceptait qu'il fût là, auprès d'elle, comme un ami secourable, et Patrice ne pensait plus à tous les problèmes qui le tourmentaient, ni à cette série de crimes qui s'étaient accumulés autour d'eux, ni aux périls qui pouvaient les environner. Il ne pensait qu'à l'abandon et à la douleur de la jeune femme. « Ne répondez pas, Coralie, ne dites pas un mot. C'est à moi de parler. Il faut que je vous apprenne ce que vous ignorez, c'est-à-dire les motifs pour lesquels vous vouliez m'éloigner de cette maison et de votre existence même. » Il posa sa main sur le dossier du fauteuil où elle était assise, et cette main effleura la coiffe de la jeune femme. « Coralie, vous vous imaginez que c'est la honte de votre ménage qui vous éloigne de moi. Vous rougissez d'avoir été la femme de cet homme, et cela vous rend confuse et inquiète, comme si vous étiez coupable vous-même. Mais pourquoi? Est-ce de votre faute? Ne pensez-vous pas que je devine entre vous deux tout un passé de misère et de haine, et que ce mariage, vous y avez été contrainte je ne sais par quelle machination? Non, Coralie, il y a autre chose que je vais vous dire, il y a autre chose. » Il s'était penché sur elle encore davantage. Il discernait son profil charmant que la flamme des bûches éclairait, et il s'écria avec une ardeur croissante et en usant de ce tutoiement qui, chez lui, gardait d'un ton de respect affectueux. « Dois-je parler, maman Coralie ? Non, n'est-ce pas ? Tu as compris, et tu vois clair en toi. Ah, je sens que tu trembles des pieds à la tête. Mais oui, dès le premier jour, tu l'as aimé ton grand diable de blessé, tout mutilé et tout balafré qu'il fut. Tais-toi, ne proteste pas. Oui, je m'en rends compte. Cela t'offusque un peu d'entendre de telles paroles aujourd'hui. J'aurais dû patienter, peut-être. Pourquoi? Je ne te demande rien, je sais. Cela me suffit. Je ne t'en parlerai plus avant longtemps, avant l'heure inévitable où tu seras forcé de me le dire toi-même. Jusque-là, je garderai le silence. Mais il y aura entre nous ceci, notre amour. Et c'est délicieux, maman Coralie. C'est délicieux de savoir que tu m'aimes, Coralie. Bon. « Voilà que tu pleures maintenant. et tu voudrais nier encore. Mais quand tu pleures, maman, je te connais. C'est que tout ton cœur adorable déborde de tendresse et d'amour. Tu pleures. Ah, maman, je ne croyais pas que tu m'aimais à ce point. Lui aussi, Patrice, il avait les larmes aux yeux. Celles de Coralie coulaient sur ses joues pâles, et il eût voulu baiser ses joues mouillées. Mais le moindre geste d'affection lui paraissait une offense en de telles minutes. Il se contentait de la regarder éperdument. Et comme il la regardait, il eut l'impression que la pensée de la jeune femme se détachait de la sienne, que ses yeux étaient attirés par un spectacle imprévu, et qu'elle écoutait, dans le grand silence de leur amour, une chose qu'il n'avait pas entendue, lui. Et soudain, à son tour, il l'entendit, cette chose, bien qu'elle fût pour ainsi dire imperceptible. C'était, plutôt qu'un bruit, la sensation d'une présence qui se mêlait aux rumeurs lointaines de la ville. Que se passait-il donc? Le jour avait baissé, sans que Patrice s'en rendît compte. À son insu également, comme le boudoir n'était pas grand et que la chaleur du feu y devenait lourde, Madame Essarès avait entrouvert la fenêtre, dont les battants néanmoins se rejoignaient presque. C'est cela qu'elle considérait attentivement, et c'est de là que venait le danger. Patrice fut prêt de courir à cette fenêtre. Il ne le fit pas. Le danger se précisait. Dehors, dans l'ombre du crépuscule, il distinguait à travers les carreaux obliques une forme humaine. Puis il aperçut entre les deux battants un objet qui brillait à la lueur du feu et qui lui parut être le canon d'un revolver. « Si l'on soupçonne un instant que je suis sur mes gardes, » pensa-t-il, « Coralie est perdue. » De fait, la jeune femme se trouvait en face de la fenêtre, dont aucun obstacle ne la séparait. Il prononça donc à haute voix et d'un ton dégagé, « Coralie, vous devez être un peu lasse. Nous allons nous dire adieu. » En même temps, il tournait autour du fauteuil pour la protéger. Mais il n'eut pas le temps d'accomplir son mouvement. Elle aussi, sans doute, avait vu luire le canon du revolver. Elle se recula brusquement et balbutia. « Ah, Patrice, Patrice !» Deux détonations retentirent, que suivit un gémissement. « Tu es blessé ?» s'écria Patrice, en se précipitant sur la jeune femme. « Non, non, mais la peur !»« Ah, s'il t'a touché, le misérable !»« Non, non, tu es bien sûr !» Il perdit ainsi 30 à 40 secondes, allumant l'électricité, examina la jeune femme, attendant avec angoisse qu'elle reprît toute sa conscience. Et seulement alors, il se jeta vers la fenêtre qu'il ouvrit toute grande, et il enjamba le balcon. La pièce se trouvait au premier étage. Il y avait bien des treillis le long du mur, mais à cause de sa jambe, Patrice eut du mal à descendre. En bas, il s'empêtra dans les barreaux d'une échelle renversée sur la terrasse. Puis il se heurta à des agents qui émergeaient de ce rez-de-chaussée et dont l'un vociférait « J'ai vu une silhouette qui s'enfuyait par là. »« Par où ?» demanda Patrice. L'homme courait dans la direction de la petite ruelle. Patrice le suivit. Mais à ce moment, du côté même de cette porte, il s'éleva des clameurs aiguës et le clapissement d'une voix qui râlait « Au secours ! Au secours !» Lorsque Patrice arriva, l'agent promenait déjà sur le sol une lanterne électrique. Et tous deux, ils aperçurent une forme humaine qui se tordait dans un massif. « La porte est ouverte !» cria Patrice. « L'agresseur s'est sauvé, allez-y » L'agent disparut dans la ruelle, et comme Yabon survenait, Patrice lui ordonna « Au galop, Yabon !»« Si l'agent monte la ruelle, descends !»« Au galop, moi je m'occupe de la victime !» Pendant ce temps, Patrice se courbait, projetant la lanterne de l'agent sur l'homme qui se débattait à terre. Il reconnut le vieux Siméon à moitié étranglé, une cordelette de soie rouge autour du cou. « Ça va? Vous m'entendez ?» Il desserra la cordelette et répéta sa question. Siméon bégayait une suite de syllabes incohérentes, puis, tout à coup, il se mit à chanter, puis à rire, d'un rire saccadé, très bas, qui alternait avec des hoquets. Il était fou. « Monsieur, » dit Patrice à Monsieur Desmalions, quand celui-ci le rejoint et qu'ils se furent expliqués, « Croyez-vous vraiment que l'affaire soit finie ?»« Vous aviez raison, » avoua M. Desmalions, « et nous allons prendre toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de Mme Essarès. La maison sera gardée toute la nuit. » Quelques minutes plus tard, l'agent et Yabon revenaient après des recherches inutiles. Dans la ruelle, on trouva la clé qui avait servi à ouvrir la porte. elle était exactement semblable à celle que possédait Patrice, aussi vieille, aussi rouillée. L'agresseur s'en était débarrassé au cours de sa fuite. Il était 7 heures du soir lorsque Patrice, en compagnie de Yabon, quitta l'hôtel de la rue Raynouard et reprit le chemin de Neuilly. Selon son habitude, Patrice saisit le bras du Sénégalais et, s'appuyant sur lui pour marcher, il lui dit « Je devine ton idée, Yabon. » Yabon grogna. « C'est bien cela, » approuva le capitaine Belbal. « Nous sommes entièrement d'accord sur tous les points. Ce qui te frappe principalement, n'est-ce pas, c'est l'incapacité totale de la police en cette occurrence. Un tas de nullités, diras-tu. En parlant ainsi, monsieur Yabon, tu dis une bêtise et une insolence qui ne m'étonne pas de toi et qui pourrait t'attirer de ma part la correction que tu mérites. Mais passons. Donc, quoi que tu en dises, la police fait ce qu'elle peut, sans compter qu'en temps de guerre, elle a autre chose à faire qu'à s'occuper des relations mystérieuses qui existent entre Madame Essarès et le capitaine Belbal. C'est donc moi qui devrais agir, et je n'ai guère à compter que sur moi. Eh bien, je me demande si je suis de taille à lutter contre de tels adversaires. Quand je pense qu'en voici un qui a le culot de revenir dans l'hôtel que la police surveillait, de dresser une échelle, d'écouter sans doute ma conversation avec M. Desmalions, puis les paroles que j'ai dites à Maman Coralie, et en fin de compte de nous envoyer 2 balles de revolver. Hein? Qu'en dis-tu? Suis-je de force? Et toute la police française elle-même, déjà surmenée, m'offrira-t-elle le secours indispensable? Non. Ce qu'il faudrait pour débrouiller une pareille affaire, c'est un type exceptionnel qui réunisse toutes les qualités. Enfin, un bonhomme comme on n'en voit pas. Patrice s'appuya davantage sur le bras de son compagnon. Toi, qui as de si belles relations, tu n'as pas ça dans ta poche? Un génie, un demi-dieu. Yabon grogna de nouveau, d'un air joyeux, et dégagea son bras. Il portait toujours sur lui une petite lanterne électrique. Il l'alluma et introduisit la poignée entre ses dents. Puis, il sortit de son dolman un morceau de craie. Le long de la rue, il y avait un mur recouvert de plâtre, sali et noirci par le temps. Yabon se planta devant ce mur, et lançant le disque de lumière, il se mit à écrire d'une main inhabile, comme si chacune des lettres lui coûtait un effort démesuré, et comme si l'assemblage de ces lettres était le seul qu'il put jamais réussir à composer et à retenir. Et de la sorte, il écrivit 2 mots que Patrice put lire d'un coup. Arsène Lupin. Arsène Lupin, dit Patrice à mi-voix, et le contemplant avec stupeur. Tu deviens ma boule. Qu'est-ce que ça veut dire, Arsène Lupin? Quoi? Tu me proposes Arsène Lupin? Yabon fit un signe affirmatif. Arsène Lupin, tu le connais donc? Oui, déclara Yabon. Patrice souvint alors que le Sénégalais passait ses journées à l'hôpital à se faire lire par des camarades de bonne volonté toutes les aventures d'Arsène Lupin, et il ricana. Oui, tu le connais comme on connaît quelqu'un dont on a lu l'histoire. Non, protesta Yabon. Tu le connais personnellement? Oui. Idiot, va, Arsène Lupin est mort! Il s'est jeté dans la mer du haut d'un rocher, et voilà que tu prétends le connaître? Oui. Tu as donc eu l'occasion de le rencontrer depuis sa mort? Oui. Fichtre. Et le pouvoir de M. Yabon sur Arsène Lupin est assez grand pour qu'Arsène Lupin ressuscite et se dérange sur un signe de M. Yabon? Oui. Bigre. Tu m'inspirais déjà une haute considération, mais maintenant je n'ai plus qu'à m'incliner. Ami de feu Arsène Lupin. Rien que ça de chic. Et combien de temps te faut-il pour mettre cette ombre à notre disposition? 6 mois? 3 mois? 1 mois? 15 jours? Yabon fit un geste. Environ 15 jours, traduisit le capitaine Belbal. Eh bien, évoque l'esprit de ton ami. Je serais enchanté d'entrer en relation avec lui seulement. Vrai, il faut que tu aies de moi une idée bien médiocre pour t'imaginer que j'ai besoin d'un collaborateur. Alors quoi? Tu me prends pour un imbécile? Pour un incapable.